Salut à tous, bienvenue sur mon tout premier épisode de Sylvia Bomek Podcast. Alors, pour cet épisode en avant-première, je le consacrerai à la culture. Alors, ce jour, on parlera de les quatre êtres les plus sages de la planète. Alors, j'ai tiré la source de du thème de ce jour dans le livre des Proverbes, le chapitre 30. Je dois préciser le verset, le verset 24 au verset 28. Alors, qui sont ces êtres? Alors, je les cite pour vous. Il y a les fourmis, les damans, les sauterelles et les lézards. Je vous avoue que quand j'ai lu cela, j'étais vraiment choquée parce que je sais que selon la conception des hommes, les plus sages, quand on lit les critères de ces quatre animaux, les plus sages hommes ne vont pas de pair avec, avec leurs critères. Je prends un exemple, je vais faire un constat par moi-même. Quand j'appelle une personne, je qualifie une personne de plus sage, c'est cette personne-là qui a une capacité à pouvoir résoudre les problèmes. Elle a un raisonnement un peu différent et un peu mature que les autres. C'est celle-là que j'appelle une personne plus sage. Et alors, j'ai interrogé certaines personnes autour de moi pour me rassurer si elles ont la même conception que moi que sur la question des plus sages. Et je n'ai pas été surpris parce qu'ils ont donné presque la même réponse. Et quand on voit même dans nos villages, quand on dit le conseil des sages, on voit les gens qui sont les gens un peu plus âgés qui sont réunis avec des cheveux blancs et des barbes un peu blanches. Donc, ce qui nous fait croire que la sagesse selon les hommes, certains hommes, fait référence à l'expérience, en fait l'âge. Une personne un peu plus avancée en âge est aussi considéré comme une personne plus sage. Et dans les entreprises aussi, le conseil des sages, c'est toujours ces personnes-là qui sont un peu avancées en âge, qui sont capables, qui ont eu beaucoup d'expérience dans l'entreprise, qu'on les qualifie des conseillers. Alors, c'est le point de vue des hommes. Les plus sages, selon le point de vue de Dieu, je vous dirais, c'est complètement opposé au plus sage selon le point de vue des hommes. Dieu voit la sagesse dans les toutes petites choses. Alors, qu'est-ce que je vous dirais en premier lieu? Ces quatre animaux, ce qu'ils ont en commun, ils ont un seul dominateur commun, c'est la petitesse. Ce sont les quatre animaux peut-être les plus petits de la planète. La fourmi, elle est toute petite. La sauterelle, les damans, ce sont les petits rats, un peu, en fait, ils sont petits. Ce sont les damans aussi, ce sont des tout petits mammifères. Ce sont vraiment les petits animaux. Ça, c'est ce qu'ils ont en commun. Alors, qu'est-ce qu'ils ont chacun en particulier? La fourmi, en dehors de sa petitesse, la fourmi est un insecte très impuissant et faible. La fourmi ne fait de mal à personne. Elle peut te piquer, mais la piqûre en fait n'est pas aussi grave que ça. Tu ne pourras jamais aller à l'hôpital parce que tu as été piqué par une fourmi. Mais facilement, tu peux mettre le pied, écraser des centaines de fourmis à la fois. Donc, elles sont des animaux impuissants. Ce sont des animaux aussi petits. Ce sont aussi des animaux selon la Bible, ce sont des animaux qui se déplacent en division. Elles n'ont pas besoin de gouverneur pour aller en masser en été. La Bible dit aux paresseux, va chez la fourmi, va prendre les conseils auprès de la fourmi, car elle amasse dans la bonne saison. La fourmi sait qu'il y a une bonne et une mauvaise saison. Pendant la bonne saison, qu'est-ce qu'on fait? On amasse parce que la mauvaise saison viendra où il n'y aura rien. Alors, il faudra qu'on on s'approvisionne. Mais si on n'a pas, ou si on n'a pas quelque chose en stock, alors où est-ce qu'on s'approvisionnerait? Alors, la fourmi a le paresseux a la fourmi comme pour exemple parce qu'elle le fait cela sans demander à quelqu'un. Elle ne demande pas les conseils à quelqu'un, elle le fait parce que Dieu l'a fait cette grâce. Alors, les damans sont les tout petits mammifères. On les rencontre le plus souvent en abyssinie. Ils vivent en colonie, se déplacent le plus souvent en colonie et vivent dans les rochers. Parce que ce sont des animaux un peu comme les rats, ils sont fragiles, ils ont des dentitions vraiment pas offensives, donc ils ne peuvent pas vraiment se défendre. Ce sont des animaux aussi impuissants comme la fourmi qui n'ont presque aucune arme de protection, mais ils ont compris cela, qu'ils n'ont pas de quoi se protéger. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vivre dans les rochers. Quand ils voient le danger apparaître, ils faufilent dans les fentes des rochers et se cachent à l'intérieur. Quand ils sont là à l'intérieur, ils ont la conviction, ouf, je suis enfin sur un lieu protégé, je suis enfin quelque part où on ne pourra pas me manger. C'est ça le daman. Alors, le lézard, c'est aussi un animal qui est aussi vulnérable, c'est un petit reptile. Il ressemble peut-être au serpent, mais il est inoffensif. On peut le saisir avec les mains, sans danger. Il ne mord pas, il ne fait rien du tout. C'est un animal inoffensif, facile à tuer. Mais la Bible dit qu'il se retrouve parfois dans les palais des rois. Comme pour dire quoi? Parce que les hommes le sous-estiment, parce que il est un être qu'on sous-estime, qu'il est faible, qu'il est inoffensif, qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas beau à voir. Alors, puisque les hommes pensent cela de lui, Dieu, lui, se glorifie en lui parce que lui, il reconnaît qu'il est inutile. Il est inutile aux yeux des hommes, mais Dieu lui fait grâce de, Dieu voit en lui quelqu'un qui est capable de siéger parmi les grands. Parce que Dieu se glorifie dans la petitesse. Parce que Dieu se glorifie dans la faiblesse. Comme l'apôtre Paul disait, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, le quatrième animal, c'est l'insecte, la sauterelle. C'est aussi un insecte comme les autres, c'est un tout petit insecte avec des pattes très fragiles. La sauterelle se déplace quand elle voit un danger, elle se déplace, elle saute avec ses pattes vraiment fragiles, elle saute d'un côté à un autre et c'est aussi un être comme les autres, aussi très vulnérable, qui n'a pas vraiment des armes de protection, mais qui parvient toujours à vivre. Parce que Dieu sait qu'ils sont vulnérables. Dieu les a créés comme ça. Dieu sait qu'ils sont vulnérables. Mais lui aussi veille sur eux. Combien les sauterelles nous rencontrons chaque jour, malgré qu'elles sont vulnérables, malgré leur fragilité, combien d'entre elles sont encore en vie? Et nous qui sommes des hommes qui sont capables de les marcher dessus. Dieu aussi protège certains d'entre elles. Parce que Dieu sait que la sauterelle est fragile. C'est un insecte vulnérable. Alors Dieu la protège. En fait, c'était ça le premier épisode de ce jour. Je tenais vraiment à exposer sur ces quatre êtres. Alors, dorénavant, quand vous comprendrez, quand vous entendrez parler de la sagesse, essayez un peu d'élargir votre champ de réflexion, de penser plus comme les hommes. Les hommes pensent que la sagesse, l'homme sage, c'est celui qui a des longues barbes blanches, ou celui qui a vécu très longtemps. Non, ce n'est pas ça. Un homme sage, selon Dieu, le plus sage, je vais dire, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est petit. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est impuissant. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin de se cacher dans les rochers comme un daman, comme le daman. Le daman se cache dans les rochers, les pierres, mais nous avons Dieu qui est le rocher des arches. Si tu reconnais que si tu veux Dieu, d'après Dieu, si quelqu'un veut être sage, cette personne doit se voir comme la fourmi. Elle doit se voir comme un lézard. Elle doit se voir vulnérable. C'est alors que elle sera forte, parce que Dieu, la parole le dit dans les livres. L'apôtre Paul l'a dit dans les épîtres. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu se glorifie dans les faiblesses. Dieu se glorifie dans nos manquements, dans nos impuissances. C'est alors que Dieu vient. Si nous proclamons que nous sommes forts, si nous disons que oui, je suis fort parce que j'ai des gardes du corps devant ma maison, parce que j'ai un salaire qui me permet de me déplacer avec une troupe devant moi, Dieu ne sera plus avec nous puisque nous avons déjà déclaré que non, on n'a pas besoin de lui. Dieu cherche des hommes humbles. Dieu cherche des personnes qui sont petites, qui reconnaissent leur petitesse. Dieu cherche des personnes qui se reconnaissent impuissantes. Dieu cherche des personnes qui se reconnaissent vulnérables. C'est là-bas, c'est là où il se glorifie. C'est là où lui-même prendra sa gloire. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode qui parlait de la sagesse et des quatre êtres les plus sages. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau épisode de mon Sylvia Bomet podcast. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!
Salut à tous encore. C'est mon bonsoir, mon bonjour de partout où vous m'écoutiez. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, et surtout aux musulmans qui ont été secoués par la célébration de la Tabaski en famille. J'espère que vous avez été vraiment dans la joie. Je vous envoie mes sincères vœux et je salue tout le monde et je remercie déjà tous ceux-là qui me suivent de part tout le monde entier. Merci encore. Votre fidélité m'honore. Alors, le troisième épisode de ce jour, c'est la deuxième partie en fait de l'ouvrage de Sidi Badian sous le Rach. Comme on avait promis la dernière fois, j'ai parlé seulement du cas. J'ai fait une peinture de la société africaine avant l'arrivée des colons. Aujourd'hui, maintenant, on parlera de la société, l'état de l'Afrique, et l'influence de la colonisation sur la société africaine. Et particulièrement, on parlera de la France, l'AOF et l'AEF. Et le cas précis sera le cas du Mali. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand les colons sont arrivés sur les terres maliennes? Ils font instaurer des institutions d'abord, telles que l'école, l'église, l'ingérence dans les affaires administratives du Mali et partout en Afrique et d'ailleurs. À travers l'école, le colon nous a appris certaines valeurs qui allaient bien sûr à l'encontre de la vieille école solaire. L'école moderne nous a appris, par exemple, que cette situation que nous faisons subir à la femme nous mettra éternellement en état d'infériorité à l'égard des autres peuples. qu'il faut, qu'il est souhaitable, pardon, de flanquer ces vieilles coutumes en l'air. Libérer la femme si nous tenons vraiment à vivre. L'école nous a appris encore que ces pratiques coutumières font nos faiblesses. Si nous voulons vivre pleinement, il nous faut devenir un peu plus fort. C'est la femme qui fait démarrer la société, c'est elle qui la fait progresser, c'est elle le principal agent d'émancipation. Débarrassons-nous donc de toutes ces vieilleries, soyons un peu plus forts. La force résout tout d'après l'école moderne, et cetera. En tout cas, alors c'est un passage très clair, non? Vous savez bien que la femme occupe une place de choix dans la société occidentale. Alors, pour ceux qui ne savent pas le schéma de la société en termes des droits de l'homme en Europe particulièrement, parce que j'y suis, c'est d'abord l'enfant. On privilégie d'abord l'enfant. Après, c'est la maman. Et enfin, c'est le papa. Donc, le papa occupe. C'est l'inverse, en fait, de la société africaine d'avant la colonisation. Alors, autre chose, de nouvelles villes, quand les Blancs sont arrivés, en fait, au Mali, qu'est-ce qu'on a pu apercevoir? Des nouvelles villes ont été appelées quartiers européens, ont vu le jour. Alors, comme caractéristique de ces villes, on avait les rues très larges, goudronnées, très propres, toujours nettoyées, contrairement à celles des colonies, où après la pluie, les rues du quartier indigène devenaient comme des mares, des boues, un peu comme on dit chez nous des zélobies. Donc c'est un peu ça. C'était comme ça. C'est ce qu'on pouvait voir concrètement. Il y avait déjà une séparation au niveau administratif, un quartier administratif propre, réservé aux Blancs, et un quartier des indigènes qui était très sale, moins entretenu. Et l'ironie du sort, c'était que le même administrateur qui était responsable de tout cela. On avait un administrateur commun qui dirigeait le quartier des Blancs, le quartier européen, et qui dirigeait encore le quartier des indigènes. Voilà un peu ça. Alors, la troisième chose qu'on peut noter, c'est que les colons ont encouragé les femmes à aller aussi à l'école, de s'instruire. C'est le cas de Kani, la fille de Benfa, qui sera par la suite, elle saura lire et écrire, et partant même, elle apprendra ses droits en tant que femme. Ah oui. Alors, le blanc a appris à l'école, a appris à la femme que sa place n'était pas au foyer comme nous, nos pères croyaient que cela était. Donc, quand le blanc arrive, il dit à la femme, non, tu as la même chance que ton frère, puisque l'école était pour la plupart du temps, c'était réservé au mâle. Donc, quand le blanc arrive, il dit non, ta place en tant que femme, ce n'est pas au foyer. Tu peux t'instruire aussi, tu peux voyager en Europe, tu peux faire une carrière, tu peux réussir aussi comme les hommes. C'est un peu ça que le blanc est venu avec comme une nouvelle ère. Alors, le quatrième point, le blanc, quand ils sont arrivés, les blancs, ils ont obligé à tous les Africains, les chefs indigènes surtout, à se découvrir. À se découvrir pour le saluer. Or, il était de coutume que quand un vieux ne se découvre jamais, un autre, c'était les jeunes, c'était aux jeunes de saluer les vieux et non l'inverse. Vous voyez ça? Imaginez nos griots, tous nos pères, grands-pères. Le blanc est arrivé quand il voulait leur salut, il a demandé d'enlever peut-être leur chapeau, enlever un, je ne sais pas, se découvrir vraiment. C'était vraiment humiliant pour ces blancs. Eux qui n'ont jamais fait cela de leur vie. Et en plus, il a commencé à inverser les rôles parce que là maintenant, c'est le blanc qui espérait que les ancêtres, que nos ancêtres, nos pères, le chef du village viennent vers eux, leur saluer. Or, c'était eux les étrangers. Normalement, qu'est-ce qui se provoque dans une société qui se respecte? Quand un étranger vient, c'est lui qui vient s'annoncer auprès du chef du village. Il vient s'annoncer auprès du dirigeant de la place. Ce n'est pas le dirigeant en partie qui l'accueille. Vous voyez déjà ces gens, c'est comment les inversions, comment les rôles ont commencé à s'inverser petit à petit dans la société africaine. Alors, continuons. Le cinquième point, bien sûr. Il y en a aussi dans cet ouvrage que le blanc cherchait à tout savoir. Il n'oublie même pas les vaches, le nombre de vaches que vous avez, le nombre d'enfants, votre bétail, si vous avez un fusil ou non. Il cherchait à tout savoir sur nos chefs, tous ces hommes qui étaient qui avaient ce droit-là, qui avaient été nommés par le village de régner sur nos villages et sur nos territoires. Donc le blanc, quand il arrive, il cherche à savoir toutes ces informations pour en faire quoi, d'après vous? Moi, je pense que s'il cherche toutes ces informations, c'est parce qu'exactement, ils étaient venus pour coloniser. Coloniser quelqu'un, colonisation. Coloniser quelqu'un, ça veut dire dominer la personne, assujettir cette personne. Alors, l'information était très capitale pour eux parce que quand tu as l'information, tu peux facilement manipuler quelqu'un comme une télécommande sur avec un écran de télé. Oui. Plus vous avez l'information sur la personne, plus vous pouvez facilement manipuler la personne. C'est logique, n'est-ce pas? C'est très logique. Alors, c'était ça, le quatrième point. Avançons avec le cinquième. Alors, à l'arrivée du blanc, qu'est-ce qui s'est passé? On a enregistré la première épidémie qui fut une épidémie de méningite cérébro-spinale. Elle avait commencé dans les quartiers du nord et avait petit à petit gagné tous les quartiers de la ville. Cette maladie, disaient les vieux, que les soldats noirs l'avaient ramenée du pays des blancs après la guerre. Alors voici comment l'épidémie, la pandémie, en fait tous ces trucs qui sont en Afrique maintenant est arrivé. Pendant la guerre, les blancs venaient prendre les ressources humaines en Afrique. Ils prenaient des hommes forts, robustes. Vous voyez, ils partaient les former comme des soldats. Et puis, quand ils avaient sont formés, ils les rajoutaient à leurs armées de guerre. Donc, les Noirs partaient combattre aux côtés des Blancs pour leurs propres intérêts. Alors, quand la guerre s'est achevée, ils sont rentrés. Puis c'était plus à l'époque de l'esclavage, bien sûr, on leur a donné le libre arbitre de rentrer à la maison. Ils sont rentrés, mais ils ne se sont pas rentrés comme ils sont partis. Ils sont rentrés déjà contaminés par les virus de la méningite cérébro-spinale. Donc, l'épidémie ne vient pas de maintenant, c'est depuis longtemps. Et elle ne vient pas d'Afrique, elle vient d'ailleurs, suivez mon regard. Alors, c'est quoi le prochain point? On passe au prochain point. Bien sûr. Ce roman, bien sûr, est rencontre à travers une histoire d'amour très touchante entre deux jeunes élèves de l'école moderne, Kani et Sam, qui s'aimaient sincèrement et intensément dans le dessein du père de cette première, qui désirait ardemment faire épouser sa fille à un riche marchand famagan, va contrecarrer sérieusement. Le père Benfa, qui était le père de Kani, voulait que sa fille épouse l'homme que lui il aurait choisi pour elle. Et la jeune fille aussi, à son tour, était déjà amoureuse de son ami de classe avec qui ils ont commencé l'école du blanc ensemble. Bon, ça a créé un très grand clash parce que c'était comme un clash de la nouvelle et l'ancienne, en fait, la méthode traditionnelle, la méthode moderne. Le papa, qui est sûr de ses traditions, qui est gardé de ses traditions, savait que dans les traditions, c'est le père qui offre un gendre à sa fille. Maintenant, la fille qui allait à l'école moderne, elle a appris que non, tu as le droit de choisir avec qui tu peux faire ta vie. Alors, c'est ça qui créera encore un grand dilemme entre le papa et sa fille et de l'autre côté son fiancé Sam. Ce n'était pas du tout facile, hein? Parce que faire vivre cet amour voudrait dire désobéir au père de Kani dans un contexte où la jeunesse se comportait déjà de manière assez insolente et désinvolte vis-à-vis de leurs aïeux qui fuyaient leur héritage et leur coutumes, voulaient à tout prix ressembler aux blancs. Voilà, c'était ça. C'était vraiment un dilemme entre cette fille et son papa qui s'opposait déjà à son mariage avec son étudiant pour lui donner à un marchand, un homme d'affaires qui était déjà aussi polygame de deux femmes, donc sa fille devait être la troisième femme dans ce foyer-là. L'école moderne, il faut vraiment le souligner, a été tant critiquée par les vieux. Ça a connu beaucoup de failles parce que les vieux se plaignaient beaucoup de cela, que l'école moderne a entraîné une division, une rupture entre la jeune et la vieille génération, et un questionnement dans les vieilles habitudes qui sévissent depuis des siècles. Vous voyez, les jeunes désormais refusaient par exemple de boire de l'eau des calebasses sous prétexte qu'elles contiennent des microbes, qu'elles sont sales, donc on peut boire de l'eau de là et tomber malade. Donc ils ne le faisaient plus. Or, c'est ce que leurs ancêtres, les pères de leurs pères le faisaient depuis le commencement des choses. C'est un peu ça. Alors, il faut noter qu'il y a un personnage vraiment emblématique dans cet ouvrage, d'un rôle très très capital. Car il est à la fois comme un médiateur entre la jeunesse et les vieux. Il s'agit de Tiemann, un jeune homme proche encore des anciens, mais qui a connu l'Europe. Alors, il va jouer un rôle notable dans l'intrigue entre le papa de Kani et Kani. Ce mariage forcé qui se préparait, il va jouer vraiment un rôle très, très notable de là. Parce que en parlant de la lettre qui s'adresse au fiancé de Kani, il dit ceci: s'il y a des conflits entre les vieux et nous, jeunes, c'est que nous représentons un peu deux mondes différents. La conciliation est possible. J'aime ça, j'ai vraiment aimé cette phrase. La conciliation est possible. Ouais, c'est vraiment possible. C'est à vous à en prendre l'initiative. Nous avons vécu coupé de l'autre monde. Je m'appuierai sur son rôle pour faire une... Je m'appuierai d'ailleurs sur le rôle de cet homme pour faire une riche synthèse de cette œuvre en insistant sur le brassage des cultures afro-occidentales. Voilà, il faut reconnaître ceci, c'est, ça va de soi, hein. C'est vraiment, on ne peut pas cacher, on ne peut pas se nier cela. Le blanc nous a apporté beaucoup de bien, beaucoup de bien, ça c'est incontournable. Par exemple, les méthodes artisanales qu'on utilisait jadis ont été remplacées par les méthodes modernes. Ce qui a fait quoi? Ça a accru la productivité. Un gain en temps, un gain en... Et ça aussi, augmenter la productivité, la quantité. À l'époque, par exemple, si on produisait un... Je ne sais pas. Si, par exemple, sur le cas des plantations, on s'émet peut-être le maïs peut-être sur un hectare par jour. Mais avec les machineries et tout ça, le blanc est venu faire, c'était maintenant les cultures sur les hectares, c'est en fait des grandes surfaces. Et les productions étaient vraiment énormes, c'était des tonnes qu'on produisait. Vous voyez un peu. Donc, le blanc nous a apporté beaucoup de bien. Les conditions des femmes aussi ont été révolues. Les femmes sont désormais très émergentes. On connaît pas mal de femmes africaines qui sont multimillionnaires en dollars, en... multimilliardaire même peut-être, un dollar américain. On connaît des femmes qui sont dans le gouvernement, premier ministre. Nous connaissons des femmes qui sont haut placées en Afrique. Vous voyez, ce sont les cultures qui ont été un peu mises en question par l'arrivée du blanc. Cette chose n'était pas possible avant que le blanc n'y soit. Et on voit aussi qu'il y a les foyers polygamiques qui sont un peu en voie de disparition, surtout dans les foyers chrétiens. C'est dans les foyers polygamiques que les gens sont peut-être encore de le faire, mais c'est un peu en voie de disparition, hein. Surtout que la société change, ce n'est plus comme les femmes étaient forcées d'accepter certaines choses. Non, maintenant chaque femme a son droit. La femme peut frapper la main à la table, dire non, je ne veux pas ça, non, je veux ça. Ouais, c'est maintenant le dialogue, la collaboration. Ce n'est plus les droits imposés à qui que ce soit. On doit aussi remarquer que dans la société, il n'y a plus des circoncisions des mâles à l'âge d'adolescence. Ça se fait à la naissance. Ce n'est plus cette époque-là où l'homme devait souffrir, devait se faire circoncire à l'âge de son adolescence. Pour qu'il soit formé, pour qu'il soit préparé pour affronter la société en tant qu'homme. Donc il n'y a plus cela. On le fait quand il est tout bébé pour adoucir sa douleur. C'est ça. Point d'autre. Il y a pas mal de valeurs morales et culturelles africaines qui sont vraiment en voie de disparition. Il faut noter les bonnes, mais aussi les mauvaises. Les mauvaises, il y en a aussi, vraiment nombreuses. Maintenant, c'est un peu dans la nouvelle génération africaine, on trouve rarement des gens qui s'expriment dans un langage de pudeur, qui a encore gardé cet art de s'habiller vraiment comme un Africain avec notre style de chenu. Ouais, taille, mais maintenant c'est la plupart des styles communs qu'on voit, c'est sur le modèle occidental. On est bien habillé quand on porte des marques telles que Gucci, Louis Vuitton, Dolce Gabbana et tout ça, je m'en passe. Les jeunes ensuite, quelque chose de très marrant et de très indignant, c'est que les jeunes se détachent de plus en plus de leurs années. Très peu les jeunes sont encore capables, ont encore cette fierté de parler de leurs années. Même dans les places publiques, ils ne parlent presque plus. C'est la langue du colon qui est la plus brandie entre nous, en famille, entre amis, partout à l'école. C'est la langue du colon qui remporte toujours. Et c'est vraiment marrant parce que c'est pas quelque chose, parler son dialecte, c'est pas quelque chose de négatif. C'était pas quelque chose de mal, c'était pas une valeur qu'il fallait, qu'on devrait vraiment perdre comme ça. C'est vraiment intriguant. Pourquoi chacun de nous doit se battre pour sauvegarder sa culture? Nous devons être capables de pouvoir dire non à ce qui est mal dans nos cultures et dans la culture de l'Occident. Et nous devons faire comme un tri pour préserver le bon dans tous les cas. Il ne s'agit pas évidemment de tout accepter, mais faisons juste un tri dans les coutumes, qu'elles soient africaines ou occidentales. Elles sont les cultures, ce qu'on doit mettre, ce qu'on doit retenir, c'est qu'elles sont, elles sont faites pour servir les hommes, nullement pour leur asservir. Soyons réalistes, brisons tout ce qui enchaîne l'homme et jeune sa prospérité. Aucune société n'est parfaite déjà, par exemple. C'est ça que les gens doivent comprendre. Aucune société n'est parfaite, ni la société africaine, ni la société occidentale. Prenons le cas de la société occidentale que nous, les Africains, nous combattons tant. Elle est taillée sur quelle forme? La forme hiérarchique de la société occidentale, c'est d'abord l'enfant. L'enfant est privilégié. Après, c'est l'épouse. Et enfin, c'est le mari. Le mari vient en dernière position, donc au bas de l'échelle. Ouais, c'est très, très mauvais. C'est très mauvais. Et il y en a, les Occidentaux, il y en a parmi qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit d'abord Dieu, ensuite le mari, la femme, et l'enfant vient en dernière position. Ils ont inversé catégoriquement les rôles. C'est pourquoi, vous voyez ce qui se passe maintenant comme conséquence, la délinquance juvénile. Les enfants occidentaux sont tellement insolents envers les propres parents, envers la société, envers tout le monde. Ils sont des gens très insolents. J'en ai vu pas mal. J'en ai vraiment vu. J'ai même vécu cela. Ce sont les enfants qui savent que si il peut faire n'importe quoi, si son papa lui met la main dessus, il appelle carrément la police. Et ça devient plus grave encore quand il a ses 17 ans. Tu n'as plus rien à lui dire. Il est majeur. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut à sa guise. J'écoutais l'histoire d'une dame encore l'autre jour. Ça m'a vraiment intriguée. Elle racontait combien elle a vu son propre fils de 18 ans souffrir d'un problème de santé mentale. Il délirait, ce gars. Il était vraiment... Donc, il perdait vraiment les pédales. Elle a conseillé, elle a fait tous les moyens pour le convaincre de consulter un médecin, de l'accompagner, voir un médecin. Mais le gars a refusé, il disait non, je vais bien. Or, c'était faux. Il prenait des drogues, des lubrifiants, des trucs comme ça. Ça le rendait instable, en fait. Il avait vraiment besoin d'aide, mais puisqu'il était déjà majeur, c'est lui qui avait le droit d'aller consulter le médecin. Sa maman ne pouvait que le conseiller sans toutefois l'imposer. Ouais, l'enfant que vous avez mis au monde, vous voyez comment il souffre et vous êtes incapable de venir en aide. Oh, c'est le cas inverse en Afrique. En Afrique, il y a le papa, la maman et les enfants. Mais seulement les enfants aujourd'hui et même les mamans, malgré que les choses ont changé, nous aussi, on veut souvent. On veut souvent faire comme les blancs. On veut souvent voir imiter ce qu'on voit à la télé, dans les séries. On va de nos jours aussi, on veut faire comme les Kim Kardashian, on veut jouer la vie, on veut mener la vie des gens que eux-mêmes déjà ne sont pas satisfaits du système qu'ils ont construit. Leur système a des failles, ils en souffrent. Pourquoi est-ce qu'on va imiter des gens qui eux-mêmes d'abord ne sont pas satisfaits de leur propre système? Donc je vous laisse, c'était la deuxième partie de mon podcast, je vous laisse vraiment méditer cela. Mon conseil, comme je vous l'ai dit, il y a un moyen de mettre en équilibre entre ces deux cultures, africaine et occidentale, faisons un tri. Gardons des bonnes cultures, gardons les cultures qui nous valorisent. Les cultures africaines, parmi elles, il y en a plusieurs qui sont très bien. Très, très bien. Il y a une chance pour nous de les préserver et de regarder encore sur la culture occidentale ce qui est bien. Et aussi, on garde cela. On n'est pas obligé de prendre tout, les mauvaises, les bonnes. On fait un tri et on conserve les bonnes valeurs. Ça, c'est pour notre bien, c'est le bien, pour le bien d'une nation. C'est pour le bien de l'image de l'Afrique et c'est pour le bien de nous-mêmes là-bas en tant que personnes individuelles. Alors, merci de m'avoir écouté. C'était le troisième épisode de Sylvia Bomek. J'ai clôturé avec l'œuvre de Sous l'orage de Sidou Batian. J'espère que vous avez aimé. J'attendrai vos feedbacks et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez tous dans la paix, dans la joie. Et à bientôt pour le quatrième épisode de Sylvia Bomek Podcast. Bye. Tchuss. Salut à tous encore. Bonsoir, mon bonjour de partout où vous m'écoutiez. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, et surtout aux musulmans qui ont été secoués par la célébration de la Tabaski en famille. J'espère que vous avez été vraiment dans la joie. Je vous envoie mes sincères vœux et je salue tout le monde et je remercie déjà tous ceux-là qui me suivent de pas tout le monde entier. Merci encore. Votre fidélité m'honore. Alors, le troisième épisode de ce jour, c'est la deuxième partie en fait de l'ouvrage de Sidou Batian Sous l'orage. Comme on avait promis la dernière fois, j'ai parlé seulement du cas. J'ai fait une peinture de la société africaine avant l'arrivée des colons. Aujourd'hui, maintenant, on parlera de la société, l'état de l'Afrique et l'influence de la colonisation sur la société africaine. Et particulièrement, on parlera de la France, l'AOF et l'AEF. Et le cas précis sera le cas du Mali. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand les colons sont arrivés sur les terres maliennes? Ils font instaurer des institutions d'abord, telles que l'école, l'église, l'ingérence dans les affaires administratives du Mali et partout en Afrique et d'ailleurs. À travers l'école, le colon nous a appris certaines valeurs qui allait bien sûr à l'encontre de la vieille école sous l'arbre. L'école moderne nous a appris, par exemple, que cette situation que nous faisons subir à la femme nous mettra éternellement en état d'infériorité à l'égard des autres peuples. Qu'il est souhaitable, de flanquer ces vieilles coutumes en l'air. Libérer la femme si nous tenons vraiment à vivre. L'école nous a appris encore que ces pratiques coutumières font nos faiblesses. Si nous voulons vivre pleinement, il nous faut devenir un peuple fort. C'est la femme qui fait démarrer la société, c'est elle qui la fait progresser, c'est le principal agent d'émancipation. Débarrassons-nous donc de toutes ces vieilleries, soyons un peu plus forts. La force résout tout d'après l'école moderne, étincera, étincera. En tout cas, alors, c'est un passage très clair, non? Vous savez bien que la femme occupe une place de choix dans la société occidentale. Alors, pour ceux qui ne savent pas le schéma de la société, en termes des droits de l'homme en Europe particulièrement, parce que j'y suis, c'est d'abord l'enfant. On privilégie d'abord l'enfant. Après, c'est la maman. Et enfin, c'est le papa. Donc, le papa occupe. C'est l'inverse, en fait, de la société africaine d'avant la colonisation. Alors, autre chose, hein, de nouvelles villes, quand les Blancs sont arrivés, en fait, au Mali, qu'est-ce qu'on a pu apercevoir? Des nouvelles villes ont été appelées quartiers européens, ont vu le jour. Alors, comme caractéristique de ces villes, on avait les rues très larges, goudronnées, très propre, toujours nettoyé, contrairement à celle des colonies, où après la pluie, les rues du quartier indigène devenaient comme des mares, des boues, un peu comme on dit chez nous des zélobies. Donc c'est un peu ça. C'était comme ça. C'est ce qu'on pouvait voir concrètement. Il y avait déjà une séparation au niveau administratif, un quartier administratif propre, réservé aux Blancs, et un quartier des indigènes qui était très sale, moins entretenu. Et l'ironie du sort, c'était que le même administrateur qui était responsable de tout cela, on avait même un administrateur commun qui dirigeait le quartier des Blancs et le quartier européen, et qui dirigeait encore le quartier des indigènes. Voir un peu ça. Alors, la troisième chose qu'on peut noter, c'est que les colons ont encouragé les femmes à aller aussi à l'école, de s'instruire. C'est le cas de Kani, la fille de Benfa, qui sera par la suite, elle sera lit et écrit, et partant même, elle apprendra ses droits en tant que femme. Ah oui. Alors, le blanc a appris à l'école, a appris à la femme que sa place n'était pas au foyer, comme nous, nos pères croyaient que cela était. Donc, quand le blanc arrive, il dit à la femme, non, tu as la même chance que ton frère, puisque l'école était la plupart du temps c'était réservé au mâle. Donc quand le blanc arrive, il dit non, ta place en tant que femme, ce n'est pas au foyer. Tu peux t'instruire aussi, tu peux voyager en Europe, tu peux faire une carrière, tu peux réussir aussi comme les hommes. C'est un peu ça que le blanc est venu avec comme une nouvelle ère. Alors, le quatrième point, le blanc, quand ils sont arrivés, les blancs, ils ont obligé à tous les Africains, les chefs indigènes surtout, à se découvrir pour le saluer. Or, il était de coutume que quand qu'un vieux ne se découvre jamais. En outre, c'était les jeunes, c'était aux jeunes de saluer les vieux et non l'inverse. Vous voyez ça? Imaginez nos griots, tous nos pères, grands-pères. Le blanc est arrivé quand il voulait leur saluer, il leur demandait d'enlever peut-être leur chapeau, enlever je ne sais pas, se découvrir vraiment si. C'était vraiment humiliant pour ses pères. Eux qui n'ont jamais fait cela de leur vie, Et en plus, il a commencé à inverser les rôles parce que là maintenant, c'est eux, c'est le blanc qui espérait que les ancêtres, que nos ancêtres, nos pères, nos chefs du village viennent vers eux, leur saluer. Or, c'était eux les étrangers. Normalement, qu'est-ce qui se provoque dans une société qui se respecte? Quand un étranger vient, c'est lui qui vient s'annoncer auprès du chef du village. Il vient s'annoncer auprès du dirigeant de la place. Ce n'est pas le dirigeant en partie l'accueillir. Vous voyez déjà ces gens, c'est comment les inversions, comment les rôles ont commencé à s'inverser petit à petit dans la société africaine. Alors, continuons. le cinquième point, bien sûr. Il y en a aussi dans cet ouvrage que le blanc cherchait à tout savoir. Il n'oublie même pas les vaches, le nombre de vaches que vous avez, le nombre d'enfants, votre bétail, si vous avez un fusil ou non. Il cherchait à tout savoir sur nos chefs, tous ces hommes qui étaient qui avaient ce droit là, qui avaient été nommés par le village de régner sur nos villages et sur nos territoires. Donc le blanc, quand il arrive, il cherchait à savoir toutes ces informations pour en faire quoi, d'après vous? Moi, je pense que s'il cherchait toutes ces informations, c'est parce que exactement, ils étaient venus pour coloniser. Coloniser quelqu'un, ça veut dire dominer la personne, assujettir cette personne. Alors, l'information était très capitale pour eux parce que quand tu as l'information, tu peux facilement manipuler quelqu'un comme une télécommande avec un écran de télé, vous voyez? Plus vous avez l'information sur la personne, plus vous pouvez facilement manipuler la personne. C'est logique, n'est-ce pas? C'est très logique. Alors, c'était ça, le quatrième point. Nous avançons avec le cinquième. Alors, à l'arrivée du blanc, qu'est-ce qui s'est passé? On a enregistré la première épidémie qui fut une épidémie de méningite cérébro-spinale. Elle avait commencé dans les quartiers du nord et avait petit à petit gagné tous les quartiers de la ville. Cette maladie, disait les vieux, que les soldats noirs l'avaient ramenée du pays des blancs après la guerre. Alors voici comment l'épidémie, la pandémie, en fait tous ces trucs qui sont en Afrique maintenant est arrivé. Pendant la guerre, les Blancs venaient prendre les ressources humaines en Afrique. Ils prenaient des hommes forts, robustes. Vous voyez, ils partaient les former comme des soldats. Et puis, quand ils les avaient formés, ils les rajoutaient à leurs armées de guerre. Donc, les Noirs partaient combattre aux côtés des Blancs pour leurs propres intérêts. Alors, quand la guerre s'est achevée, ils sont rentrés. Puis, c'était plus à l'époque de l'esclavage, bien sûr, on leur a donné le libre arbitre de rentrer à la maison. Ils sont rentrés, mais ils ne se sont pas rentrés comme ils sont partis. Ils sont rentrés déjà contaminés par des virus de la méningite cérébro-spinale. Donc, l'épidémie ne vient pas de maintenant, c'est depuis longtemps. Et elle ne vient pas d'Afrique, elle vient d'ailleurs. Suivez mon regard. Alors, c'est quoi le prochain point? On passe au prochain point. Bien sûr, ce roman, bien sûr, est rencontré à travers une histoire d'amour très touchante entre deux jeunes élèves de l'école moderne, Kani et Samu, qui s'aimait sincèrement et intensément mais le dessein du père de cette première qui désirait ardemment faire épouser sa fille à un riche marchand famagan. va contrecarrer ses ruses d'amour. Le père Benfa, qui était le père de Cani, voulait que sa fille épouse l'homme que lui il aurait choisi pour elle. Et la jeune fille aussi, à son tour, était déjà amoureuse de son ami de classe avec qui ils ont commencé l'école du blanc ensemble. Alors ça a créé un très grand clash parce que c'était comme le clash de la nouvelle et l'ancienne, en fait, la méthode traditionnelle, la méthode moderne. Le papa, qui est issu de ces traditions, qui est le gardien de ces traditions, savait que dans les traditions, c'est le père qui offre un gendre à sa fille. Maintenant, la fille qui allait à l'école moderne, elle a appris que non, tu as le droit de choisir avec qui tu peux faire ta vie. Alors, c'est ça qui créera encore un grand dilemme entre le papa et sa fille et de l'autre côté son fiancé Sam. Ce n'était pas du tout facile, hein? Parce que faire vivre cet amour voudrait dire désobéir au père de Cani dans un contexte où la jeunesse se comportait déjà de manière assez insolente et désinvolte vis-à-vis de leurs aïeux qui fuyaient leur héritage et leurs coutumes, voulaient à tout prix ressembler aux blancs. Voilà, c'était ça. C'était vraiment un dilemme entre cette fille et son papa qui s'opposait déjà à son mariage avec son étudiant pour lui donner à un marchand un homme d'affaires qui était déjà aussi polygame de deux femmes. Donc, sa fille devait être la troisième femme dans ce foyer-là. Alors, l'école moderne, il faut vraiment le souligner, a été tant critiquée par les vieux. Ça a connu beaucoup de failles parce que les vieux se plaignaient beaucoup de cela, que l'école moderne a entraîné une division, la rupture entre la jeune et la vieille génération et un questionnement dans les vieilles habitudes qui sévissent depuis des siècles. Vous voyez, les jeunes désormais refusaient par exemple de boire de l'eau des calebasses sous prétexte qu'elles contiennent des microbes, qu'elles sont sales. Donc on peut boire de l'eau de là et tomber malade. Donc ils ne le faisaient plus. Or, c'est ce que leurs ancêtres, les pères de leurs pères le faisaient depuis le commencement des choses. C'est un peu ça. Alors, il faut noter qu'il y a un personnage vraiment emblématique dans cet ouvrage, d'un rôle très, très capital. Car il est à la fois comme un médiateur entre la jeunesse et les vieux. Il s'agit de Tiemann, un jeune homme proche encore des anciens, mais qui a connu l'Europe. Alors, il va jouer un rôle notable dans l'intrigue entre le papa de Cani et Cani. Ce mariage forcé qui se préparait, il va jouer vraiment un rôle très, très notable de là. Parce que, en parlant de la lettre qui s'adresse au fiancé de Cani, il dit ceci: « S'il y a des conflits entre les vieux et nous, jeunes, c'est que nous représentons un peu deux mondes différents. La conciliation est possible. » J'aime ça, j'ai vraiment aimé cette phrase. « La conciliation est possible. » Ouais, c'est vraiment possible. C'est à vous à en prendre l'initiative. Nous avons vécu coupé de notre monde. Je m'appuierai d'ailleurs sur le rôle de cet homme pour faire une riche synthèse de cette œuvre en insistant sur le brassage des cultures afro-occidentales. Voilà, il faut reconnaître ceci. Ça va de soi. Hein. C'est vraiment, on ne peut pas cacher. On ne peut pas se nier cela. Le blanc nous a apporté beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Ça, c'est incontournable. Par exemple, les méthodes artisanales qu'on utilisait jadis ont été remplacées par les méthodes modernes. Ce qui a fait quoi? Ça a accru la productivité. Un gain en temps, un gain en... Et ça aussi, augmenter la productivité, la quantité. À l'époque, par exemple, si on produisait un... Je ne sais pas, si par exemple, sur le cas des plantations, on s'émet peut-être le maïs, peut-être sur 1 hectare par jour, mais avec les machineries et tout ça, le blanc est venu faire, c'était maintenant les cultures sur les hectares, c'est en fait des grandes surfaces, et les productions étaient vraiment énormes, c'était des tonnes qu'on produisait, vous voyez un peu. Donc, le blanc nous a apporté beaucoup de bien. Les conditions des femmes aussi ont été révolues. Les femmes sont désormais très émergentes. On connaît pas mal de femmes africaines qui sont multimillionnaires en dollars, en multimilliardaires même peut-être, en dollars américains. On connaît des femmes qui sont dans le gouvernement, premier ministre. Nous connaissons des femmes qui sont haut placées en Afrique. Vous voyez, ce sont les cultures qui ont été un peu mises en question par l'arrivée du blanc. Cette chose n'était pas possible avant que le blanc n'y soit là. Et on voit aussi qu'il y a les foyers polygamiques qui sont un peu en voie de disparition, surtout dans les foyers chrétiens. C'est dans les foyers polygamiques que les gens sont peut-être encore de le faire, mais c'est un peu en voie de disparition, hein, surtout que la société change. Ce n'est plus comme les femmes étaient forcées d'accepter certaines choses. Non, non. Maintenant, chaque femme a son droit. La femme peut frapper la main à la table, dire non, je ne veux pas ça, non, je veux ça. Ouais, c'est maintenant le dialogue, la collaboration. Ce n'est plus les droits imposés à qui que ce soit. On doit aussi remarquer que dans la société, il n'y a plus des circoncisions des mâles à l'âge d'adolescence. Ça se fait à la naissance. Ce n'est plus cette époque-là où l'homme devait souffrir, devait se faire circoncire à l'âge de son adolescence pour qu'il soit formé, pour qu'il soit préparé pour affronter la société en tant qu'homme. Donc, il n'y a plus cela. On le fait quand il est tout bébé pour adoucir sa douleur. C'est ça. Point d'autre. Il y a pas mal de valeurs morales et culturelles africaines qui sont vraiment en voie de disparition. Il faut noter les bonnes, mais aussi les mauvaises. Les mauvaises, il y en a aussi. Vraiment nombreuses. Maintenant, c'est un peu dans la nouvelle génération africaine, on trouve rarement des gens qui s'expriment avec un langage de pudeur, qui a encore gardé cet art de s'habiller vraiment comme un Africain avec notre style de chez nous. Ouais, taille, mais maintenant, c'est la plupart des styles communs qu'on voit, c'est sur le modèle occidental. On est bien habillé quand on porte des marques telles que Gucci, Louis Vuitton, Dolce Gabbana et tout ça, je m'en passe. Les jeunes, ensuite, quelque chose de très marrant et de très indignant, c'est que les jeunes se détachent de plus en plus de leurs années. Très peu les jeunes sont encore capables, ont encore cette fierté de parler de leurs dialectes. Même dans les places publiques, ils ne parlent presque plus. C'est la langue du colon qui est la plus brandie entre nous, en famille, entre amis, partout à l'école. C'est la langue du colon qui remporte toujours. Et c'est vraiment marrant parce que c'est pas quelque chose, parler son dialecte, c'est pas quelque chose de négatif. Ce n'était pas quelque chose vraiment, ce n'était pas une valeur qu'il fallait, qu'on devrait vraiment perdre comme ça. Hmm? C'est vraiment intriguant. Je crois que chacun de nous doit se battre pour sauvegarder sa culture. Nous devons être capables de pouvoir dire non à ce qui est mal dans nos cultures et dans la culture de l'Occident. Et nous devons faire comme un tri pour préserver le bon dans tous les cas. Il ne s'agit pas évidemment de tout accepter, mais faisons juste un tri dans les coutumes, qu'elles soient africaines ou occidentales. Elles sont les cultures, ce qu'on doit mettre, ce qu'on doit retenir, c'est qu'elles sont faites pour servir les hommes, nullement pour leur asservir. Soyons réalistes, brisons tout ce qui enchaîne l'homme et gêne sa prospérité. Hein? Aucune société n'est parfaite déjà, par exemple. C'est ça que les gens doivent comprendre. Aucune société n'est parfaite, ni la société africaine, ni la société occidentale. Prenons le cas de la société occidentale que nous, les Africains, nous convoitons tant. Elle est taillée sur quelle forme? La forme hiérarchique de la société occidentale, c'est d'abord l'enfant. L'enfant est privilégié. Après, c'est l'épouse. Et enfin, c'est le mari. Le mari vient en dernière position, donc au bas de l'échelle. Vous voyez? C'est très, très mauvais. C'est très mauvais. Et il y en a, les Occidentaux, il y en a parmi qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit d'abord Dieu, ensuite le mari, la femme, et l'enfant vient en dernière position. Ils ont inversé catégoriquement les rôles. C'est pourquoi, vous voyez ce qui se passe maintenant comme conséquence, la délinquance juvénile. Les enfants occidentaux sont tellement insolents envers les propres parents, envers la société, envers tout le monde. Ils sont des gens très insolents. J'en ai vu pas mal. J'en ai vraiment vu. J'ai même vécu cela. Ce sont les enfants qui savent que si il peut faire n'importe quoi, si son papa lui met la main dessus, il appelle carrément la police. Et ça devient plus grave encore quand il a ses 17 ans. Tu n'as plus rien à lui dire. Il est majeur. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut à sa guise. J'écoutais l'histoire d'une dame encore l'autre jour. Ça m'a vraiment intriguée. Elle racontait combien elle a vu son propre fils de 18 ans souffrir d'un problème de santé mentale. Il délirait, ce gars. Il était vraiment... Donc, il perdait vraiment les pédales. Elle a conseillé, elle a fait tous les moyens pour le convaincre de consulter un médecin, de l'accompagner, voir un médecin. Mais le gars refusait, disait non, je vais bien. Or, c'était faux. Il prenait des drogues, des lubrifiants, des trucs comme ça. Ça le rendait instable, en fait. Il avait vraiment besoin d'aide. Mais puisqu'il était déjà majeur, c'est lui qui avait le droit d'aller consulter le médecin. Sa maman ne pouvait que le conseiller sans toutefois l'imposer. Vous voyez, l'enfant que vous avez mis au monde, vous voyez comment il souffre et vous êtes incapable de venir en aide. Oh, c'est le cas inverse en Afrique. En Afrique, il y a le papa, la maman et les enfants. Mais seulement les enfants aujourd'hui et même les mamans, malgré que les choses ont changé, nous aussi, on veut souvent... On veut souvent faire comme les blancs. On veut souvent voir, imiter ce qu'on voit à la télé, dans les séries. On veut, de nos jours aussi, on veut faire comme les Kim Kardashian. On veut jouer la vie. On veut mener la vie des gens que eux-mêmes déjà ne sont pas satisfaits du système qu'ils ont construit. Leur système a des failles. Ils en souffrent. Pourquoi est-ce qu'on va imiter des gens qui eux-mêmes d'abord ne sont pas satisfaits de leur propre système? Donc, je vous laisse, c'était la deuxième partie de mon podcast, je vous laisse vraiment méditer cela. Mon conseil, comme je vous l'ai dit, il y a un moyen de mettre un équilibre entre ces deux cultures, africaine et occidentale, faisons un tri. Gardons les bonnes cultures, gardons les cultures qui nous valorisent. Les cultures africaines, parmi elles, il y en a plusieurs qui sont très bien. Très, très bien. Il y a une chance pour nous de les préserver et de regarder encore sur la culture occidentale ce qui est bien. Et aussi, on prend, on garde cela. On n'est pas obligé de prendre tout, les mauvaises et les bonnes. On fait un tri et on conserve les bonnes valeurs. Ça, c'est pour notre bien, c'est le bien, c'est pour le bien d'une nation, c'est pour le bien de l'image de l'Afrique et c'est pour le bien de notre, de nous-mêmes d'abord en tant que personne, individu. Alors, merci de m'avoir écouté. C'était le troisième épisode de Sylvia Bomek. J'ai clôturé avec l'œuvre de Sous l'orage de Sidou Badian. J'espère que vous avez aimé. J'attendrai vos feedbacks et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez tous dans la paix et dans la joie. Et à bientôt pour le quatrième épisode de Sylvia Bomek Podcast. Bye. Tchuss!